Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffaine Ruchini, Clément Salazar, Anne-Sophie Pierry, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Alexandre Dang. Suite de notre série donc consacrée à la monnaie, après avoir évoqué lundi les guerres monétaires entre le dollar, le yuan et l'euro, après avoir évoqué la question des unions monétaires, aujourd'hui, nous quittons un peu les monnaies officielles, les monnaies d'État, pour nous intéresser aux monnaies dites virtuelles, numériques et plus particulièrement au Bitcoin. Bitcoin, blockchain, quand le numérique frappe monnaie. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Les gars, je viens de vous envoyer une centaine d'euros en Bitcoin depuis là où je suis à Tokyo, via cette caméra où je vous parle et Internet, et cet argent est arrivé directement chez vous. Si j'avais voulu transférer cet argent en utilisant une banque, cela aurait pris plusieurs jours et probablement coûté une trentaine d'euros de frais. Pourtant, je viens de le faire, à l'instant, avec des Bitcoins, sans aucun coût et sans avoir demandé la permission à quiconque avant, ni à la banque, ni au gouvernement. Je n'ai besoin de personne. Ça s'est passé entre vous et moi et un smartphone.
That's the power of Bitcoin.
C'est ça, le pouvoir du Bitcoin.
Le Bitcoin est vraiment intéressant car il est très facile à utiliser. Le Bitcoin est mieux que la monnaie parce qu'une transaction peut se faire sans que les personnes aient besoin d'être là, physiquement parlant. Et il est tellement plus pratique aussi pour les grosses transactions financières où le système de devises peut représenter des coûts importants.
Et oui, s'il y a bien une chose dont le Bitcoin ne manque pas, c'est d'enthousiasme du simple utilisateur à Bill Gates, dont on entendait la voix fondateur de Microsoft. Sur Internet, mais également en librairie, on ne compte plus les articles, les livres clamant les bienfaits supposés du Bitcoin, n'hésitant pas à évoquer ce qui constituerait, pour certains en tout cas, une véritable révolution monétaire. Pour ses partisans, cette crypto-monnaie est libérée de toute contrainte, celle des banques centrales, des États, mais aussi de toute forme d'autorité financière ou légale. Ces derniers mois, la valeur du Bitcoin a atteint des records historiques. Plus de 1 330 $ la semaine dernière. Rappelons qu'en janvier 2016, sa valeur se situait en dessous de la barre des 500 $, c'est-à-dire 150% d'augmentation en moins de 15 mois. Alors, à défaut de remplacer les monnaies existantes, quel impact est-ce que cette monnaie pourrait avoir sur le système monétaire et financier traditionnel? Comment et dans quelle mesure peut-il ou va-t-il se transformer? Peut-elle changer les modes d'échange, court-circuiter l'autorité des banques centrales? Et surtout, que révèle-t-elle du système monétaire actuel? En d'autres termes, qu'est-ce que le Bitcoin nous dit de la façon dont nous produisons et pensons la monnaie actuellement? Nous demanderons également quelles sont les réactions des pouvoirs publics et peut-être en particulier ceux du côté du Japon qui, en la matière, semble en tout cas pionnier. Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous ce matin. D'abord, Alexis Colomb, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste au CNAM, titulaire de la chaire de finances de marché et de son master. Vous êtes un spécialiste de ces questions liées au système de blockchain, liées à ce Bitcoin dont on va parler, auteur, co-auteur notamment de ce rapport qui avait été demandé, je crois, par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers,
absolument,
intitulé « Blockchain et autres registres distribués, quel avenir pour les marchés financiers ?» À vos côtés, Jacques Favier, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin, vous êtes historien, auteur de ce site « La voix du Bitcoin » qui existe depuis 2014, je crois, et puis cofondateur et secrétaire du Cercle du Coin, du Coin, qui co-organise d'ailleurs un événement à Normal Sup autour du Bitcoin, ça sera
oui,
dans quelques jours.
Oui, c'est le 30 mai à Normal Sup, avec des intervenants universitaires, tous de haut niveau, pour une approche pluridisciplinaire.
Et puis co-auteur avec Adli Takal-Bataille de ce livre Bitcoin, la monnaie acéphale, qui paraîtra dans quelques jours aux éditions du CNRS. Alors on va commencer avec l'actualité, d'une certaine manière, du Bitcoin. Ces derniers jours, je le disais, le Bitcoin a régulièrement dépassé ses plus hauts historiques depuis sa création. Il a même dépassé la valeur de l'once d'or, un peu plus de 1 200 $. Il a atteint cette semaine 1 339 $, j'ai regardé ça. Comment comprendre ces hausses intempestives? Quels en sont les moteurs? Et est-ce qu'il faut s'attendre à l'éclatement de ce qui ressemble quand même furieusement à une bulle? On va commencer avec vous, Alexis Colomb.
Alors, je pense que c'est une question très difficile, ça. Moi, je vais éviter d'être Madame Soleil sur le cours du Bitcoin.
Je vous rassure, on a 50 minutes.
Hein. D'accord. Et, bon, enfin, je voyais encore ce matin, il est même monté, enfin, les dernières heures, à $1,450. Donc, il continue d'augmenter. Moi, je sais pas, je pense qu'on va revenir sur les raisons de cet engouement pour le Bitcoin et pour l'appréciation et, je dirais, la solidification, d'une certaine manière, du cours. Je pense, et pour répondre très brièvement, qu'il y a une maturation de cet écosystème qui est en cours et qui explique, à mon avis, que beaucoup de gens qui, autrefois, c'est-à-dire encore jusqu'à l'année dernière, ne voulaient pas y toucher, se mettent à y toucher. Il y a aussi un intérêt de plus en plus croissant de différents, je dirais, fonds d'investissement, mmh. Et on voit ça, je pense qu'on reviendra dessus, mais comme une valeur refuge, mmh. D'autant plus que le cours du Bitcoin est très peu corrélé avec les autres classes d'actifs. Mmh. Voilà.
On va poursuivre avec vous, Jacques Favier, sur cette idée peut-être d'un éclatement, d'une spéculation autour de ce Bitcoin, et peut-être, et je reprends une formule que vient d'utiliser Alexis Colomb, sur cette idée que le Bitcoin constituerait une valeur refuge, au même titre que l'or, par exemple. Est-ce que, d'une certaine manière, la bonne santé du Bitcoin est aussi le révélateur d'une fragilité conjoncturelle du système financier traditionnel?
Oui, alors là, vous me tendez une planche savonnée, parce que dire que quand le Bitcoin va mal, c'est que quand le Bitcoin va bien, le système va mal.
C'est la question que je vous pose.
Fatalement, on ne se fait pas des amis dans le système. Moi, je voudrais revenir sur un mot que vous avez prononcé. Vous dites une hausse intempestive du Bitcoin. Alors, naturellement, pour un étalon, pour un instrument d'échange, la hausse actuelle du Bitcoin, peu gêné parce que vous avez une tendance à garder vos bitcoins plutôt que de vous en servir. Et donc, ça affecte un petit peu l'équilibre entre les trois fonctions de la monnaie. Après, dire que c'est une spéculation, souvent, c'est une posture morale. On l'a entendu. Alors, Alexis a raison. Aujourd'hui, des gens qui ne s'intéressaient pas à Bitcoin il y a 2 ans commencent à se dire qu'ils ne peuvent pas le laisser regarder comme ça, le laisser monter sans s'y intéresser. Dire que c'est une spéculation, c'est souvent dire qu'on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. À quoi est corrélée la hausse de Bitcoin? C'est difficile de le dire, mais quand on regarde la courbe de la hausse, il est intéressant de regarder quelques autres. Par exemple, la courbe de ce qu'on appelle le hash rate, c'est-à-dire la capacité de calcul du réseau pour valider les écritures. Et on voit apparaître une forme de corrélation. Le nombre de transactions quotidiennes. Et on voit apparaître une corrélation, surtout quand on fait l'exercice d'élever ce nombre de transactions quotidiennes au carré, et on retrouve une loi bien connue, qui est la loi de Metcalfe, qui veut que la solidité, et donc la valeur d'un réseau informatique, croisse avec le carré, la moitié du carré du nombre des participants à ce réseau. Donc il y a dans Bitcoin quelque chose qui se développe, encore, et qui de ce fait emporte sa valeur vers les...
Alors évidemment, peut-être que tous les auditeurs n'ont pas en tête ces fameux loi, mais ce qu'on comprend globalement dans votre discours, c'est que il ne s'agit pas là de hausse intempestive et que d'une certaine manière vous réfutez ce caractère que je supposais chaotique de l'évolution du Bitcoin, de la valeur du Bitcoin. Je voudrais qu'on comprenne peut-être le moment et le contexte dans lequel émerge le Bitcoin. On va évidemment prendre le temps pour comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, mais Alexis Colomb, est-ce que vous pouvez nous rappeler à quel moment tout ça se fait? Ça se joue juste après la crise financière de 2007-2008.
En fait, bon, le papier de fondateur, le papier séminal de Satoshi Nakamoto est publié sur une liste de cryptographie fin 2008 et les premières transactions sont minées en janvier 2009. Donc on est vraiment dans le sillage de la faillite de Lehman qui a lieu le 15 septembre 2008. Dans un contexte où ce qui est assez fascinant, c'est qu'on l'a oublié, je crois, enfin certains l'ont oublié aujourd'hui, mais entre le 15 septembre 2008 et le 15 janvier 2009, vous avez là 4 mois qui sont, pour les gens qui travaillent dans les marchés financiers, pour différents responsables, qui sont vraiment des moments de stress intense, et il y a une philosophie libertarienne, il y a tout aux États-Unis principalement, il y a, si vous voulez, toute une communauté d'utilisateurs, les initiateurs du Bitcoin, et c'est écrit d'ailleurs explicitement dans le papier de Satoshi Nakamoto, veulent s'affranchir des institutions financières et veulent mettre en place un système qui devrait, selon leurs opinions et leurs estimations, être beaucoup plus vertueux.
Alors, Jacques Favier, vous écrivez dans votre livre, je vous cite, « Un mécanisme de confiance sans tiers de confiance et sans police, une unité de compte émise indépendamment de toute banque centrale ou commerciale, un possible instrument monétaire sans aucun lien avec une autorité souveraine quelconque. » Celui qui a pensé ce système, et on va revenir justement sur le mystère qu'il y a un peu autour de cet homme-là, ou de cette femme d'ailleurs, en tout cas de cet individu. Ils sont peut-être d'ailleurs plusieurs, mais ce qu'on sent très bien, c'est que... ils n'ont pas confiance en l'État. On a l'impression d'être en présence de quelque chose de profondément libertarien.
Je voudrais revenir, vous avez raison. Je pense que de ne mettre l'accent, comme vous le faites, que sur cette dimension libertarienne, ou bien alors, ce qu'Alexis vient de dire, mettre ça en rapport avec la crise de septembre 2008, c'est parfaitement exact. Cependant, c'est pas sous le coup de l'émotion, parce que les Mad Brothers avaient explosé, Satoshi Nakamoto a inventé Bitcoin en 15 jours.
Mais c'est un processus technologique plus long qui remonte.
Aussi vieux qu'Internet. Ouais. Dès qu'Internet apparaît, il se pose un problème technique qui est de trouver un cache sur Internet. Or, votre carte bleue, votre carte Visa dans la rue, elle est pratiquement aussi fluide comme expérience que l'usage du cash, quoiqu'elle laisse des traces pour l'État ou pour les banques. Mais il faut être honnête, quand on fait ses courses au supermarché, la carte plastique est assez pratique. Quand vous êtes face à un ordinateur, et pire encore face à un mobile qui va vous envoyer des codes de confirmation sur le même mobile, etc., c'est pas fluide du tout. Donc, le problème, c'est que
l'enjeu
technologique qui était de trouver un cache sur Internet et l'enjeu de défense de la vie privée, parce qu'on n'est pas obligé de dire libertaire sous prétexte qu'on veut simplement qu'on ne vous espionne pas à longueur de journée, ces deux enjeux convergent vers une solution qui est le cache numérique.
C'est pas simplement échapper à la surveillance généralisée, c'est échapper à l'autorité de l'État aussi.
Oui, elle tente à se confondre, ces deux dimensions. Oui,
qu'est-ce que vous faites, Alexis Colomb, de cette question, de cette dimension libertarienne qui fait partie, c'est pas la seule, mais qui semble faire partie de cet outil?
En fait, moi, pour rebondir sur ce que vient de dire Jacques, je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, j'ai répondu à votre question en parlant du contexte de la faillite de Lehman, etc. Mais il y avait toute une maturation technologique, informatique, dans les décennies précédentes, qui ont amené, si vous voulez, je pense qu'il y avait une convergence de différentes tendances, mais la maturation technologique, c'est-à-dire essayer de trouver un système de cash électronique qui résolve ce qu'on appelle le problème de la double dépense, il y avait eu beaucoup de recherches qui avaient été faites dessus.
En particulier de Citibank, qui n'est pas un groupe libertarien.
Par exemple, mais donc cette maturation technologique, je crois qu'effectivement il ne faut pas l'oublier en se focalisant sur l'aspect libertarien ou libertaire
je ne me fixe pas que là-dessus. Et par ailleurs, ce qui est au cœur du Bitcoin, c'est ce qu'on appelle le blockchain, et on va essayer de comprendre, parce que ça, c'est évidemment central. Je reviens un tout petit instant avant d'en venir justement au blockchain sur l'identité de Nakamoto, justement, qui a laissé place pour le coup à beaucoup de spéculations. On n'avait aucune trace de cette identité avant justement cette fameuse note sur le Bitcoin. Sur son profil, on apprenait que c'était un Japonais de 40 ans. Pourquoi, Alexis Colomb, ce mystère autour de l'identité de son fondateur? Pourquoi est-ce qu'il refuse de la révéler? Ou, si c'est un groupe, il refuse de se révéler? Et plus généralement, quel est le profil de ou des individus qu'on pourrait trouver derrière ça?
Je pense, alors écoutez, bon, ça c'est une question aussi à... j'allais dire 100 000 dollars, non, beaucoup plus aujourd'hui. Oui.
Mais c'est intéressant l'intuition de spécialistes comme vous sur...
je pense que comme tout le monde qui s'est intéressé à cette technologie, on se demande qui est derrière Satoshi Nakamoto, etc. Bon, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, justement, d'experts, de participants de la communauté qui, précisément, en ont assez de cette question et vont dire, bon, je veux pas m'y intéresser, peu importe. Mais je pense que le profil, c'est forcément quelqu'un de technique ou un ensemble de personnes. Certains vous diront, c'est probablement, on évoquait tout à l'heure, Norman Supérieur, peut-être un groupe d'experts ou de scientifiques, un peu comme Bourbaki l'a été à une époque pour le
maths. Un groupe de mathématiciens.
Je ne sais pas. Il y avait eu, au début de l'année dernière, il y a eu une annonce qui avait été faite par un certain Craig Wright.
Un Australien,
qui ensuite a donné lieu à un pataquès.
Pour vous, ça n'a pas d'importance?
Si, d'une certaine manière, mais je pense qu'en fait, quand on pourrait passer, à mon avis, une heure à évoquer les raisons qui font que Satoshi Nakamoto est resté anonyme, que ça soit un individu ou un groupe. Je pense qu'à mon avis, ça procédait peut-être à l'origine, mais c'est juste une de mes intuitions, justement peut-être de quelqu'un qui n'avait pas envie qu'on l'embête, qui avait envie de, précisément parce que ce système est décentralisé, distribué, et pour reprendre le titre de l'ouvrage
Merci,
de Jacques,
j'allais le faire.
N'a pas de tête. Acéphale, eh bien, oui. Voilà, acéphale. Eh bien, je crois que dans cette logique-là, on peut tout à fait imaginer que Satoshi Nakamoto n'a pas envie, justement, d'être une entité, de révéler son identité pour être un centre.
Jacques Favier.
Alors, clairement, quand Alexis dit qu'il n'avait pas envie qu'on l'embête, un certain nombre de précurseurs qui ont mis au point des systèmes de monnaie électronique plus ou moins difficiles à tracer ont été plus qu'embêtés. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'entre eux ont dormi en tôle. Donc, la prudence a certainement conduit le ou les fondateurs à garder un certain champ. Ensuite, il y a une remarque qu'on oublie toujours. Pendant 2 ans, ça ne vaut rien. C'est un jeu au début. La fameuse pizza, c'est non pas après des mois, c'est après des années. Donc, et un certain nombre de membres du groupe, par exemple, ont pu perdre leur clé. Si Satoshi est un groupe d'hommes, la clé qui gouverne l'adresse, la première adresse, celle où il y a 1 million de bitcoins, a pu être perdue. Ensuite, ce qui est important, c'est pas de raconter des romans pour savoir si tel ou tel, il y a eu des analystes intéressants par des linguistes pour voir le style d'anglais de Satoshi qui est certainement pas japonais, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir les conséquences parce que d'autres monnaies, d'autres communautés, que ce soit Ether, par exemple, Ethereum, ont un fondateur. Et ça change beaucoup de choses, pas forcément en mal ou pas forcément en bien, mais ça change beaucoup de choses. D'autres blockchains, comme celle de NXT, ont aussi un fondateur qui a décidé de rester anonyme. Donc, ouais. il peut y avoir un certain nombre de raisons qui amènent à faire ce choix, et ce choix, ensuite, installe la communauté, celle de Bitcoin dont je fais partie, dans une posture qui est relativement, on va dire, horizontale. Vous savez que dans la vie, on est fils d'eux ou frère d'eux. Eh ben, on n'est pas fils de Nakamoto parce qu'il a disparu.
Alexis Collomb, les questions techniques. Parce que l'une des questions posées par cette crypto-monnaie, c'est de s'assurer, si j'ai bien compris, qu'elle n'appartient pas finalement à plusieurs propriétaires en même temps. Il ne faut pas qu'une unité monétaire serve plusieurs fois, évidemment. Et pour répondre à ce défi, on a trouvé une solution technique qui s'appelle le blockchain. Alors, sur la page Wikipédia, on nous explique qu'il s'agit d'une technologie de stockage et de transmission d'informations, je cite, « transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe de contrôle ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots simples comment fonctionne ce blockchain et la révolution que ça a l'air de constituer?
Alors, juste, parce qu'en quelques mots, ça sera difficile. En plus, je pense que sans pouvoir montrer éventuellement quelques diagrammes. Mais je dirais juste, peut-être pour préciser les choses, d'abord, je crois qu'il faut parler du protocole Bitcoin et de ce qu'il permet. Et il permet notamment d'avoir, si vous voulez, un système précisément décentralisé. Ça se fait sur un réseau pair à pair avec de l'utilisation de fonctions cryptographiques. Et comme on l'a dit, ça permet de résoudre le problème de la double dépense, donc d'éviter d'avoir une autorité centralisatrice. Et c'est vraiment là l'un des aspects principaux et l'un des aspects, je dirais, révolutionnaires de cette technologie. Donc la résolution du problème de la double dépense. Par ailleurs, il y a aussi une propriété du réseau qui est très importante et du fonctionnement du système, c'est que vous avez donc des ce qu'on appelle des mineurs, c'est-à-dire un système décentralisé d'ordinateurs qui participe à la sécurité du réseau. Donc ce qu'on appelle la blockchain, en fait, stricto sensu, la blockchain du Bitcoin, c'est une structure de données, comme son nom l'indique, une série de blocs, une chaîne de blocs d'informations, et qui sont, il y a un chaînage cryptographique, si on peut dire, d'un bloc à l'autre. Et l'une des beautés de ce système, c'est sa sécurité, qui est assurée justement par ce chaînage cryptographique et qui fait qu'il est impossible de venir modifier ce qu'on a écrit, ce qui a été validé sur le registre, un peu comme imaginer un livre auquel on rajoute une page toutes les 10 minutes, et une fois que, disons, la convention dit 6 pages ont été rajoutées, vous ne pouvez plus revenir sur les pages précédentes de ce livre pour en modifier des mots, des termes. Et même si vous le faisiez, l'une des beautés aussi de ce système et de ce chaînage cryptographique, c'est que si vous permutiez deux lettres ou déplaciez un espace ou autre, ça se répercuterait dans tout le reste du livre. Donc pour prendre cette métaphore, donc c'est la sécurité du système est aussi vraiment essentielle. Et donc il y a eu au début on a beaucoup parlé de Bitcoin et puis je prends quelques raccourcis, ça n'a pas été très à la mode pendant un certain temps pour certaines raisons que Jacques a évoquées, notamment des raisons il y a eu des problèmes Silk Road qui était un site où on pouvait acheter un certain nombre de substances illicites via des Bitcoins, il y a eu ensuite la de Mt. Gox, etc. Mais la technologie restait vraiment extrêmement intéressante et du protocole Bitcoin, de la communauté Bitcoin, sont nés ou sont dérivés, sont apparues différentes autres communautés, différentes autres blockchains comme Jacques l'a dit, Ethereum, NXT, etc.
Alexis Colomb, si je résume, est-ce que je peux dire que les blockchains, d'une certaine manière, c'est l'équivalent de registres, de livres de comptes qui gardent la mémoire de toutes les opérations qui ont été prises? Est-ce que c'est à peu près correct?
Oui, à peu près correct, je pense. Enfin, la blockchain, pour être précis, c'est une structure de données, d'accord? Et c'est en fait stricto sensu une métonymie où aujourd'hui on désigne un tout par une partie. Donc, il n'y a pas deux blockchains, il y a différentes blockchains, il y a différents systèmes, mais je pense que la première blockchain qu'il faut étudier, c'est celle du Bitcoin et qui est qui a donné lieu à différentes ramifications. Voilà.
Ce bruit que vous entendez, chers auditeurs, c'est pas celui du métro, c'est pas une gare, c'est ce qu'on appelle une ferme de minage qui se trouve là en Chine. Jacques Favier, je voudrais que vous nous expliquiez, Alexis Colomb l'a évoqué, cette question des mineurs, de cette action du minage qui fait partie du processus d'une certaine manière de validation de ce Bitcoin et qui permet d'une certaine manière de valider les nouveaux blocs. Expliquez-nous un petit peu, deux explications valent mieux qu'une, Jacques Favier.
Alors, si on peut en venir directement au minage, les mineurs ne valident pas, hein, par ce travail qui consomme énormément d'énergie, ils ne valident pas stricto sensu les écritures. Le fait de valider les écritures nécessiterait 1% de l'énergie qui est dépensée. La vérité, c'est que pour être en mesure de les valider, ils doivent produire une preuve. Alors, c'est un peu difficile à expliquer, on peut donner des métaphores, on peut dire par exemple qu'avant d'entrer dans l'isoloir, vous devriez soulever de la fonte pendant 10 minutes pour ne pas aller voter deux fois. On peut aussi essayer d'expliquer ce que c'est que ce travail. On dit ils font des calculs très compliqués. En réalité, ils ne font pas des calculs très compliqués, parce que ce qui assure la sécurité cryptographique du système Bitcoin, c'est une fonction mathématique irréversible. C'est-à-dire qu'en partant de X, vous pouvez avoir Y, mais avec Y, vous ne pouvez pas avoir X. Et donc, comme on leur demande de l'inverser, la seule façon de le faire, c'est par itération. Exactement comme si je vous demandais de sortir 50 piles de suite à pile ou face, vous devriez lancer la pièce en l'air des milliers de milliards de fois. Ça ne veut pas dire que vous feriez des calculs très compliqués. Vous faites tourner les choses. Pourquoi ? Pour sécuriser ce réseau, parce que ça rend l'attaque contre le réseau incommensurablement plus difficile et plus onéreuse que tout autre système de sécurisation d'un réseau qui est distribué.
Et donc on a des gens qu'on appelle des mineurs qui font tourner des machines pour justement procéder à ces calculs.
Tout à fait. Cet effort qui est fait pour conforter l'ensemble des réseaux, donc au bénéfice de l'ensemble de la communauté, est rémunéré en Bitcoin. Et c'est ça le trait de génie de Satoshi Nakamoto. C'est que s'il avait offert un coup à boire, peut-être que ça aurait été plus excitant dans les premières semaines, mais au bout d'un certain temps, les gens se seraient lassés du jeu. L'alignement de l'unité de compte de la blockchain de Bitcoin, dont Alexis a eu parfaitement raison de rappeler qu'avant de parler de Bitcoin ou de monnaie ou de technologie ou de blockchain, il faut rappeler que c'est un protocole. Comme l'alphabet est un protocole inventé par je ne sais qui, les Phéniciens, comme TCP ou IP sont des protocoles qui nous permettent d'échanger. Alors on échange quoi ? Bitcoin est un protocole d'échange de Bitcoin. L'idée de génie, c'est d'aligner l'unité de compte, puisqu'on ne compte pas en euros ou en cacahuètes sur la blockchain de Bitcoin, on compte en Bitcoin, et de l'aligner sur la rémunération. Et comme la beauté de Bitcoin, c'est que cette unité de compte, quand je la déplace de moi vers vous, je ne peux pas l'envoyer à Alexis en même temps, parce que le calcul fait par les mineurs vont m'en empêcher, il est unique. De ce fait, il devient digitalement tangible, et c'est un jeton. Ce qui est difficile, c'est de comprendre à la fois Bitcoin comme une unité de compte et comme un jeton.
Ce que je comprends, j'essaie de traduire une fois encore, mais c'est que d'une certaine manière, la certification de ces nouveaux blocs réalisés par donc ces machines qui sont mises en route par ce qu'on appelle des mineurs, souvent des communautés de personnes qui mettent en place des ordinateurs dans
en Chine, c'est
très impressionnant. Ouais. J'invite vraiment les auditeurs à aller regarder sur Internet parce qu'on voit effectivement des énormes hangars avec des quantités incroyables d'ordinateurs avec des ventilateurs qui tournent, ce qui explique le bruit qu'on a entendu là. Cette validation, elle produit d'une certaine manière de la valeur, puisque quand vous validez un bloc, si j'ai bien compris, vous gagnez du Bitcoin.
Satoshi ne définit pas son jeton autrement qu'en disant c'est une suite de signatures électroniques. C'est de l'information, comment dire, cristallisée.
Oui, mais je veux dire, c'est rémunéré en Bitcoin, mais absolument, c'est rémunéré. Et là, je me tourne vers vous, Alexis Colomb, parce que c'est là qu'il y a aussi une belle idée. C'est qu'au départ, si j'ai bien compris, le montant de la récompense pour la création d'un nouveau bloc, il est de 50 Bitcoin. Oui. Et puis, désormais, il a 25 Bitcoin. Et puis, à partir d'un certain bloc, il va passer à 12,5.
Il est maintenant à 12,5.
Il est maintenant à 12,5. Et il va être à chaque fois divisé par deux. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que l'inventeur ou les inventeurs de ce système-là ont défini les choses pour que le nombre de Bitcoin n'excède pas un certain volume. En l'occurrence, c'est 21 millions d'unités.
Absolument.
En fait, c'est un système qui porte en lui une politique monétaire, Alexis Colomb.
D'une certaine manière. Enfin, ça, on peut dire que c'est un système qui est...
puisqu'on ne peut pas dépasser un certain volume.
Oui, déflationniste. Alors, pour revenir d'ailleurs à votre première question, c'était aussi, je pense que beaucoup de personnes de soutien du Bitcoin à l'origine critiquaient notamment la politique monétaire. Et certains, je ne veux pas m'apesantir là-dessus, mais il est vrai que, si vous voulez, surtout pour revenir là dans le contexte de 2008, je dirais certains technologistes voulaient trouver une solution à ce qu'ils considéraient comme des politiques monétaires défaillantes. L'idée, par exemple, que les banques centrales puissent décider de manière arbitraire, vu de l'extérieur, de la politique monétaire, de la quantité de monnaie qui doit être émise. En tout cas, je parle là de ce qu'on appelle la masse M0. Ça posait problème à certains. Donc, c'est vrai que le système du Bitcoin prévoit jusqu'en, grosso modo, disons en 2040, vous aurez environ 21 millions de Bitcoin. Il y a 8 décimales actuellement. On peut augmenter, le protocole peut se modifier si la communauté en est d'accord, augmenter le nombre de décimales. Mais ça veut dire que si on a juste 21 millions de Bitcoin en circulation, il y aura intrinsèquement dans cette programmation une déflation programmée.
Et en revanche, une augmentation de la taille des blocs. Je crois qu'au départ, on était environ 200 kilooctets. Aujourd'hui, on est à un peu moins d'un méga. Alors, il y a certaines personnes qui s'inquiètent de cette augmentation, craignant une certaine saturation du réseau.
C'est un vieux débat, je dirais vieux débat au sens de dire maintenant de quelques années. C'est toujours la taille maximale du bloc est toujours à un mégaoctet. Il y a différentes solutions techniques qui sont proposées pour augmenter éventuellement le débit du réseau. C'est grosso modo, sa capacité maximale, c'est de 7 transactions par seconde. Alors certains disent, par exemple, vous prenez le réseau Visa, vous avez environ 20 000, enfin, il peut monter jusqu'à 20 000 transactions par seconde.
Donc c'est un
problème de passage à l'échelle. Mais c'est une discussion compliquée. Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est après avoir parlé à différents experts, je ne pense pas que ça soit nécessairement un obstacle. Et il y a toute une série de techniques pour circonvenir, si je puis dire, pour contourner ce problème.
Moi, en préparant cette émission, j'ai lu un certain nombre de choses et j'ai lu effectivement un certain nombre d'obstacles, notamment celui-ci. Alors, je vous le soumets. Ouais. Jacques Favier, sur cette question du système qui porterait en lui ou pas une forme de politique monétaire.
Alors, sur les 21 millions limités, sur la taille limitée du bloc, etc., il y a toujours un débat, une sorte d'animosité qui est portée contre Bitcoin, on vous dit le truc peut pas marcher parce que si tout le monde s'en servait, etc. Alors j'avais coutume de répondre, mais le franc suisse aussi, si tout le monde s'en servait, ça marcherait pas, jusqu'à ce que mon co-auteur Adlita Kalbataï ne me dise: Jacques, faites-leur remarquer que l'ascenseur dans leur immeuble, si tout le monde s'en sert, on n'y arrive pas non plus. Et donc je trouve l'image assez pertinente. Après, on anticipe le moment où Bitcoin va devenir une monnaie déflationnaire parce qu'elle sera en montant limité. Moi, je fais remarquer que l'histoire du Bitcoin, pour le moment, c'est celle d'une monnaie à très forte inflation. 100% pendant 4 ans, 32% pendant 4 ans suivants. Ça n'est que au prochain halving, dans 3 ans, qu'on sera à un rythme de 1%. Donc, pour le moment, Bitcoin a été une monnaie émise pratiquement sur un rythme sud-américain, ce qui, paradoxalement, c'est là qu'est le paradoxe, ne l'a pas empêché d'avoir une explosion de sa valeur. Après, Bitcoin, vous l'avez dit dans votre première intervention, n'est pas fait pour remplacer les monnaies légales, nationales, etc. Certains bitcoiners le pensent, je ne le pense pas. Il faut se poser la question, pourquoi est fait Bitcoin? Le problème n'est pas de savoir s'il y en a assez ou trop.
Pourquoi et pour qui d'ailleurs? On pourrait se poser la question. On pourrait se demander dans quel pays est-ce qu'on les utilise beaucoup? Et là, on pense à la Chine, on pense à des pays en crise, par exemple comme le Venezuela, où on a vu à un moment une explosion de son utilisation. Et on pourrait se poser la question, effectivement.
Donc, c'est pas une question de pays. Pour moi, c'est pas une question de pays.
Je peux finir?
Je vous en prie.
Merci beaucoup. Le portrait, pardon, du pays qui utiliserait le Bitcoin. Est-ce qu'on peut faire un portrait robot de ce pays-là?
Je pense qu'il y en a.
Pourquoi la Chine l'utilise? Pourquoi le Venezuela l'utilise?
Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup, mais enfin, je pense que là, il y a une certaine corrélation claire entre la situation monétaire du pays ou sa situation économique et puis l'utilisation du Bitcoin. Enfin, vous avez évoqué le Venezuela. Durant la crise de Chypre, on a vu un pic d'utilisation de transactions qui venaient de Chypre. Vous avez aussi l'Argentine. L'Argentine, par exemple, est un pays, à mon avis, très novateur. Je crois en Bitcoin. Vous avez une communauté là-bas très active, beaucoup de technologistes, etc. Qui sort d'une crise grave. Je pense qu'on pourrait décliner, regarder les différents endroits du monde où vous avez soit une situation économique ou une monétaire instable, ou alors d'une infrastructure bancaire qui est très peu développée. Je crois que pour rebondir sur ce que disait Jacques, moi je pense comme lui que le Bitcoin n'a pas vocation à devenir la monnaie planétaire. Par contre,
Ils sont très peu à dire ça. Honnêtement, c'est un argument marginal.
Voilà. Mais par contre, ce réseau, la sécurité qu'il offre, etc., peut offrir et offre déjà tout un ensemble d'applications passionnantes. Et il y a une chose qui marche, en tout cas aujourd'hui, je crois qu'il faut le dire, c'est les paiements internationaux. Il y a des gens qui, vous avez environ, je crois maintenant, je vois, il y a environ 10 millions d'utilisateurs de par le monde. Vous avez des gens, vous avez environ, je crois, 300 000 transactions journalières en Bitcoin. Il y a beaucoup de gens qui envoient des Bitcoins à leur famille, ce que les anglo-saxons appellent les remittances, les paiements internationaux. Ça fonctionne et ça fonctionne bien. Et pour l'avoir moi-même testé, utilisé et comparé avec des virements bancaires, je dirais, en une heure, vous avez votre virement qui a été consommé et qui était fait.
Jacques Favier, si on fait une sociologie des utilisateurs du Bitcoin, on trouve quoi?
On trouve des gens qui ont un clavier devant eux quelque part, parce que se poser la question en termes de pays, c'est intéressant. Alors évidemment, Chypre, la Grèce, l'Inde, chaque choc sur une monnaie nationale produit un regain d'intérêt, peut-être pas de transactions, parce qu'on n'a jamais réussi à prouver qu'il y ait des transactions chypriotes plus que grecques, mais on peut mesurer par exemple les requêtes Google, les téléchargements de portefeuilles en Bitcoin. On sait que quand il y a eu une crise en Grèce, les téléchargements de portefeuilles en Bitcoin ont été multipliés par 5 dans la nuit dans certains pays comme l'Espagne. Mais cependant, le Bitcoin n'est pas fait pour un pays particulier. Celui qui l'a dit, c'est Monsieur Varoufakis. Il a dit que pour la Grèce, le Bitcoin avait les défauts cumulés de l'or et de l'euro. Bitcoin est fait pour le cyberespace. Bitcoin a été conçu par, pour et dans Internet. Le vrai, souvent d'ailleurs, la réponse à tout un tas de régulateurs qui se posent des questions encore très incardinées dans l'idée que d'un côté c'est chez moi, de l'autre côté c'est pas chez moi, qu'ici il y a la frontière entre la France et la Suisse, etc., etc. C'est dire, mais considérez donc Bitcoin comme une monnaie émise sur la Lune et vous aurez la réponse à peu près à toutes vos questions. Bitcoin est une monnaie émise dans l'Internet pour l'Internet. Et dans l'Internet, il y a vous, il y a moi, il y a des groupes humains. Par exemple, si on veut, Alexis et moi, ouvrir un compte en banque à la banque du coin de de la rue, ça va être un calvaire. Si on veut se doter tous les trois d'un portefeuille Bitcoin avec une signature à 2/3, par exemple, ça va nous prendre 3 minutes. Mmh. Et puis, dans l'Internet, il y a beaucoup d'autres gens qui sont, si j'ose dire, des gens qui sont des machines. Bitcoin est une monnaie programmable et donc c'est une monnaie pour les machines, pour les robots. Donc c'est là, il faut dépasser le cadre étroit de la pensée territoriale.
Et qui n'est pas rattaché à quelque chose de matériel, de tangible, parce que Bitcoin, on a compris, c'est le fruit d'avancées technologiques, mais c'est aussi peut-être le résultat d'un changement de paradigme dans nos systèmes monétaires. Il y a eu très longtemps un rapport entre le signe inscrit sur nos pièces et nos billets et sur, disons, une chose stable, matérielle, définie, jusqu'à...
The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators.
Vous avez reconnu probablement la voix de Richard Nixon, 1971, absolument août 71, quand il annonce la suspension temporaire de la convertibilité entre l'or et le dollar pour éviter la spéculation sur le dollar. Cette suspension finalement va s'avérer définitive. C'est important, Jacques Favier, vous l'évoquez justement dans votre livre Bitcoin, la monnaie acéphale, parce que c'est une rupture très importante. Ça va changer nos représentations de la monnaie qui n'est plus consubstantielle à une matière physique. Le Bitcoin, c'est exactement dans cette lignée. Il est le fruit d'une forme de décorrélation entre le signe et une valeur tangible.
Oui et non. D'abord, le choc du 15 août est complètement minimisé. Le philosophe Jean-Joseph Goux, qui nous a fait l'honneur de préfacer notre livre, insiste sur la radicalité, d'une certaine façon, la folie, le caractère anxiogène de cette mesure du 15 août 1971. Et pourtant, quand vous écoutez les orateurs, les banquiers, les puissants, vous avez le sentiment que c'est ça l'état normal des choses. Et puis, on vous présente une histoire de la monnaie complètement réécrite depuis le troc qui n'a probablement jamais existé, jusqu'à la pièce d'or remplacée par commodité par des billets de banque, remplacée par commodité par des livres numériques tenus par les banques. Et tout ça, on dit, c'est la dématérialisation de la monnaie, on réécrit les choses. En réalité, la dématérialisation de la monnaie, c'est dû presque toujours aux guerres, leur décorrélation d'une valeur. Et puis, ça ne s'est pas passé si bien que ça dans l'histoire. Maintenant, dire que Bitcoin poursuit ce mouvement, oui, d'une certaine façon, ça reste une monnaie digitale.
C'est pas un jugement de valeur.
Mais mais ça poursuit un mouvement de numérisation, mais en même temps, il faut bien comprendre que sur Bitcoin, il y a une valeur. Le titre que vous avez donné à cette émission, quand le numérique frappe monnaie, pour frapper, il faut frapper sur quelque chose. Alors que la monnaie, pas moins numérique, des banques centrales, elle est pas frappée, elle est tournée à la planche à billets, c'est-à-dire qu'on part du principe que du papier, il y en a autant qu'on veut, alors que de l'or sur lequel on frappe, il y en a pas autant qu'on veut. Donc Bitcoin n'est pas forcément une poursuite vers la monnaie qu'on va appeler sémantique, c'est de la monnaie parce que moi, l'État, je dis que c'est de la monnaie. Non, Bitcoin, il y a une valeur dessus et cette valeur n'est pas donnée par l'État, elle est donnée par le marché.
Mmh. Alexis Colomb, vous êtes d'accord ?
Oui, absolument. Non, mais je pense que pour rebondir sur ce que vient de dire Jacques, moi, il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup et sur lequel on a décidé d'ailleurs de mener des recherches au CNAM, qui est la politique monétaire. C'est un très vieux sujet. Comme le dit Jacques, on a tendance à vous présenter ça un peu comme quelque chose d'inéluctable, de c'est en place. Bon, elle a été très critiquée en Europe récemment parce que ça soit le quantitative easing ou autre, on dit bon, finalement ça n'a pas vraiment aussi bien marché qu'on le voulait. Mais je pense que moi, ce que je trouve très intéressant, au-delà même du Bitcoin et de la blockchain, c'est de penser à la technologie numérique aujourd'hui et en fait à la capacité qu'a une banque centrale de pouvoir envoyer directement sur un smartphone des unités de valeur, des unités monétaires à ses concitoyens. Et ça, je pense que ça pose une question assez fondamentale sur la politique monétaire et comment est-ce qu'éventuellement on pourrait l'adapter, l'ajuster. Alors, ça serait un long débat. Il y a certains économistes qui commencent à... Il y a des voix qu'on commence à entendre. Mais aujourd'hui, le fonctionnement banque centrale, banque commerciale pour la création de monnaie a des défauts intrinsèques qui sont bien connus, qui ont été critiqués déjà depuis 1935, Irving Fisher et notre premier prix Nobel d'économie, Maurice Allais. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, la technologie numérique pose des questions assez centrales là-dessus, sur la politique monétaire.
S'envoyer des unités de valeur... évidemment, de façon parfaitement sécurisée. C'est le grand... c'est la pierre angulaire. On va un petit peu l'aborder là maintenant. Bitcoin, blockchain, quand le numérique frappe monnaie, Alexis Colomb et Jacques Favier sont nos invités.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme. Bon.
Mon cher Claude. システムにあの弱いところがあってあの、まあ、ビットコインがあの、まあ、いなくなって。
Février 2014, un Français qui s'exprime là en japonais, Marc Carpelles, qui annonce l'arrêt de son activité, c'est lié à la plateforme Mt. Gox, permettant l'échange de bitcoin. 2015, il est mis en examen au Japon pour détournement de fonds, soupçonné d'avoir fait disparaître plusieurs millions de dollars en monnaie, en crypto-monnaie. Carpelles était donc le patron de cette plateforme d'échange, Mt. Gox, qui s'est subitement effondré. Elle avait déposé le bilan, faisant perdre ainsi quelques 850 000 bitcoins, une valeur à l'époque de 350 millions d'euros à peu près. On va retrouver une nouvelle invitée, Michèle Abraham, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocate au barreau de Paris, contributrice au site bitcoin.fr et membre du Cercle du Coin. Alors, Mt. Gox, c'était une plateforme d'échange historique. Elle avait été créée en 2009, juste quelques semaines après la création du bitcoin. Alors, d'après la version CarPLS, la plateforme aurait été piratée. Mais on a quand même un certain nombre de transactions qui ont été refusées donc à tort et qui auraient été perdues. C'est en tout cas la version de son ancien patron français, Marc CarPLS. Mais quoi qu'il en soit, et là, je vais faire rebondir ensuite Alexis Colomb et Jacques Favier, mais cette histoire fait exploser un peu en vol cette idée selon laquelle le Bitcoin serait une monnaie parfaitement sécurisée, Michèle Abraham.
Alors là, je pense que c'est important de faire une distinction entre Bitcoin, donc le protocole et la monnaie, et les intermédiaires, c'est-à-dire les plateformes de change. Et la plateforme Mt. Gox, effectivement, était une plateforme de change. Et c'est une plateforme très particulière puisque... c'est la première plateforme où a été échangé des bitcoins, puisque au départ, comme l'a dit Jacques Favier précédemment, certains pensaient que bitcoin, ça pouvait être un peu comme le token d'un jeu. Et donc, cette plateforme Mt. Gox, au départ, était une plateforme d'échange de jeux. Puis, très vite, avec l'arrivée de Marc Carpelles, il a transformé essentiellement en plateforme d'échange de bitcoin. Et la contrepartie, c'est que lui, à la base, c'était un informaticien. Il n'était pas du tout formé aux techniques financières. Et après, très vite, il y a eu des problèmes financiers qui sont apparus.
Alors, je voudrais savoir, Michèle Abraham, ce qui a été fait justement au Japon suite à cette affaire pour tenter d'encadrer cette utilisation du Bitcoin et en particulier pour essayer de réguler un peu les plateformes d'échange. Parce que des choses ont été faites, en tout cas, sont en train d'être menées, Michèle Abraham.
Oui, tout à fait, vous avez raison. Alors, ce qui se passe, c'est que donc déjà, Mt. Gox a été la première plateforme d'échange de Bitcoin à un moment où le Bitcoin, à un moment, est monté jusqu'à 1200 dollars. Donc, il y avait énormément d'échanges. Et quand la plateforme s'est effondrée, on s'est aperçu que il y avait un certain nombre de manquements, c'est-à-dire que la réglementation financière ne s'appliquait pas et qu'on avait vu, en cas des salariés de Mt. Gox avaient dit que Marc Carpelles aurait utilisé des bitcoins appartenant à des clients pour les besoins propres de la société. Donc suite à ça, le gouvernement japonais a été très... C'était très compliqué pour lui puisque à la base, le bitcoin n'était pas défini en droit japonais. Donc on ne savait même pas si c'était un jeu, un bien, une chose, une monnaie. Et la conséquence de ça, c'est qu'on ne savait même pas quelle était l'autorité qui devait enquêter. C'est-à-dire, est-ce que c'était la police, l'agence de la consommation, l'agence des services financiers.
Les choses de ce point de vue-là ont un petit peu changé, Michèle Abraham, puisque là, on a une loi qui est entrée en vigueur très récemment, le 1er avril dernier, qui justement définit les monnaies numériques, reconnaît au Bitcoin ce statut de moyen de paiement à part entière. Qu'est-ce qui change concrètement là, avec cette loi?
Oui, alors... Effectivement, donc cette loi, elle tire les conséquences des différents manquements par rapport à Mt. Gox. Donc, par exemple, avec cette loi, elle a établi que les plateformes d'échange de Bitcoin devaient avoir maintenant un capital minimum d'à peu près en euros, 85 000 euros, qu'elles devaient pouvoir mettre en place un système de gestion des systèmes informatiques qui dispose de mesures pour prévenir les fuites, les pertes et les dégâts relatifs aux fonds. Et en même temps qu'elle devait vraiment bien distinguer les bitcoins qui appartenaient aux utilisateurs, donc la monnaie des utilisateurs, de la monnaie de leurs fonds propres. Par ailleurs, elle devait également être soumise à un contrôle, à un audit comptable, ça, au moins une fois par an. Donc ça, c'est vraiment de grosses mesures qui ont été faites. Par ailleurs, la loi, elle définit aussi cette notion de monnaie numérique qui est différente de la monnaie électronique, et qui permet effectivement de faire passer, parce que jusqu'à présent, on ne savait pas ce que c'était Bitcoin, mais selon le droit japonais, c'est plutôt considéré comme une marchandise. Donc là, on fait passer du stade de marchandise au stade de monnaie numérique.
Vous restez avec nous, Michel Abraham, mais je voudrais faire réagir nos deux invités, Jacques Favier et Alexis Colomb, peut-être sur revenir sur cette question de l'effondrement de Mt. Gox, et puis aussi sur ce qui est en train d'être effectué au Japon pour tenter de réguler un petit peu les choses. Jacques Favier, on va commencer avec vous.
Alors sur l'effondrement de Mt. Gox, deux remarques. On peut normalement faire une émission d'une heure sur le système bancaire sans rappeler l'effondrement de Lehman Brothers, la faillite du Crédit Lyonnais, l'amende d'1,9 milliard payée par HSBC pour avoir trafiqué des choses peu avouables, etc. On est obligé à chaque fois d'évoquer, de se justifier de la faillite de Mt. Gox.
Juste petite parenthèse, nous avons évoqué Lehman Brothers tout à l'heure.
Merci beaucoup.
Poursuivez.
C'est l'effondrement d'une plateforme. Et au fond, si quelqu'un vole des pommes de terre à Rungis, ça prouve pas que les pommes de terre sont mauvaises pour la santé. C'est deux problèmes un peu différents. Ce qui est clair, c'est que Bitcoin est un protocole décentralisé et que la décentralisation n'est pas forcément naturelle à l'être humain. La plupart des gens laissent leurs clés chez la concierge et puis s'étonnent d'être cambriolés ensuite. Donc on donne ces clés à Monsieur Carpelles et ce que veulent bien des gens, c'est avoir un compte en Bitcoin. Or, on n'a pas de compte en Bitcoin chez Monsieur Truc ou à la banque machin. On a soi-même la détention et donc la responsabilité de sécuriser ses clés Bitcoin. Donc voilà, il y a la faillite de Mt. Gox montre plutôt la crapulerie inhérente à l'économie centralisée, et quand elle est centralisée sur un homme de mauvaise qualité.
Mais c'est pas une faillite du système.
C'est pas une faille du système. Après qu'il faille réguler un certain nombre de choses, c'est l'évidence.
Alexis Colomb.
Oui, moi je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire.
Alors en particulier sur cette tentation de régulation.
Sur la tentation de régulation, mais ça c'est...
Tentative plutôt.
Oui, la tentative et les tentations, enfin ce qui est en train de se passer. Moi je pense que d'une manière générale en fait, j'étais un peu étonné, je dois dire, par finalement il y a une certaine, accommodation et même intérêt des régulateurs et des institutions finalement pour le Bitcoin et puis au-delà ce qu'on appelle la blockchain. Donc je crois que ça sera intéressant de voir justement avec l'évolution du cours, quand vous avez des bitcoins qui valaient jusqu'à il y a en moyenne moins de 10 milliards de dollars de capitalisation, ça restait très marginal. Bon là on est environ à je crois 24 ou 25 milliards avec cette flambée récente. Je crois que les régulateurs jusqu'à maintenant, en tout cas dans nos plutôt je dirais dans au sein de l'Union européenne et aux États-Unis, ont été à la fois, je pense que c'est assez juste de dire, à la fois accommodants, intéressés, curieux, les banques centrales aussi. Donc il y a une véritable curiosité intellectuelle de pas mal de régulateurs et de pas mal d'institutionnels pour cette technologie. En même temps, vous avez certains pays, bon, la réglementation varie beaucoup de par le monde. Bon, par exemple, en Russie, c'est interdit. Vous avez, etc. Donc, il y a vraiment l'environnement juridique global et international varie beaucoup. Mais je pense qu'en France, en Europe, au Royaume-Uni aussi, vous avez vraiment beaucoup d'intérêt et une certaine même flexibilité. Hein. Le concept de sandbox qui est très utilisé en Angleterre pour permettre aux gens un peu de tester différents systèmes, différents prototypes. Bon, on en parle d'ailleurs de plus en plus en France. Eh bien, ça permet quand même de ne pas tuer la créativité trop tôt.
Est-ce que je me trompe si je dis que vous parliez de l'intérêt des autorités financières, quelle qu'elle soit, pour ce système-là. Est-ce que je me trompe si je dis qu'on a le sentiment que ces autorités essayent de décorréler les deux, de décorréler le Bitcoin, donc une crypto-monnaie d'un côté, et puis les technologies, en l'occurrence le blockchain dont on a parlé, qui va avec et qui peut apporter un certain nombre d'améliorations, d'évolutions dans la finance traditionnel. Est-ce qu'il n'y a pas, on décorrèle pas les deux?
Je pense pas. Je pense que c'est et quand vous regardez encore très récemment, par exemple, le Trésor a lancé une consultation qui, je crois, est ouverte jusqu'au 19 mai. L'Union européenne a lancé aussi une consultation, parle maintenant de mettre un observatoire blockchain là en place. Je crois pas nécessairement qu'on veuille absolument séparer le Bitcoin des autres systèmes. Bon, peut-être, certains.
Jacques Favier fait l'amour.
On a vu Monsieur Trichet expliquer que c'était génial la blockchain, d'autant plus qu'on pouvait en détacher le Bitcoin.
Mais une méfiance, voilà, c'est voilà. Ça. Mais une méfiance vis-à-vis du Bitcoin.
Il y a ça. Il y a aussi une petite tentation à élargir le concept de blockchain jusqu'à l'infini, jusqu'à pouvoir caractériser n'importe quelle base de données distribuée de
voilà,
blockchain.
Ça, c'est très
après,
vrai.
Je rejoins Alexis sur l'intérêt croissant des dirigeants. Il y a des choses intéressantes. Par exemple, on voit que certains grands corps sont beaucoup plus intéressés. On le voit au niveau des banques centrales, qui sont en général plus intéressés que les banques commerciales, pour des raisons évidentes. On voit, par exemple, la gendarmerie, où on trouve des remarquables connaisseurs du Bitcoin et de la blockchain. On est un peu moins séduit par l'approche de beaucoup de politiques qui veulent réguler et qui se pose des questions comme comment maintenir la souveraineté française sur le cyberespace. Bon, là on est un peu on est un petit peu loin de la chose. Il y a eu un eurodéputé balte, je crois, qui a dit au Parlement européen qu'au fond ce qu'ils auraient mieux à faire chacun, c'est de s'acheter quelques bitcoins pour apprendre à jouer avec et voir comment ça marchait. C'est un peu difficile. Il y a un autre problème qui se pose. J'aime beaucoup les avocats, il y en a dans le cercle du coin, j'en ai dans ma famille, mais on ne peut pas uniquement aborder une nouveauté par sa régulation. Quand Volta a inventé la pile électrique, il y avait un grand débat entre les galvanistes et les voltaïstes, etc. Le premier consul a passé 3 heures à se faire lire le mémoire de Volta et à recueillir des observations. Il a vu lui-même Volta, il a vu la pile, il y a passé une demi-journée. Aujourd'hui, on a quand même une petite tentation d'aller plus vite et d'en rester à des descriptions moins scientifiques. Je suis frappé du peu de contact qui existe encore aujourd'hui entre les décideurs et les scientifiques. Pour donner un exemple, demain, il y a un colloque avec tout ce que la Banque de France peut réunir, la CPR, l'AMF, etc., dans la matinée, puis il y a un autre colloque à l'École Polytechnique à midi. C'est un peu de monde et c'est dommage.
C'est-à-dire que ce que vous voulez dire, c'est qu'on veut trop vite, on cherche trop vite finalement à réguler sans peut-être comprendre la nature exacte des choses dont on est en train de,
ce que disait
de parler, du Bitcoin.
Et là, juste en 5 secondes, je pense qu'il y a aussi un problème fondamental, c'est que c'est compliqué technologiquement et que du coup, ça fait que si vous êtes un régulateur qui n'a jamais vu ce type de technologie, pour bien comprendre les choses, comme le dit Jacques, il faut y passer du temps, du travail, de l'investissement personnel, etc. Et ça ne se fait pas facilement.
Eh bien, on a essayé d'apporter notre pierre à l'édifice aujourd'hui. On a pris quasiment une heure pour comprendre, en tout cas pour essayer de mieux comprendre ce Bitcoin, cette technologie de la blockchain. En tout cas, un grand merci à tous les trois. D'abord à Michel Abraham qui était avec nous par téléphone en direct, mais également à vous, Alexis Colon. Je rappellerai que vous êtes économiste au CNAM, notamment co-auteur de ce rapport blockchain et autres registres distribués. Quel avenir pour les marchés financiers? Quant à vous, Jacques Favier, je rappellerai votre ouvrage qui va bientôt paraître, que vous avez coécrit avec Adli Takal-Bataille, Bitcoin, la monnaie acéphale. Ça sera aux éditions du CNRS. Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup.
Touch, my friend, what the whole world and the whole beast of nations desire. Power.
Presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors vous nous faites découvrir depuis lundi le philosophe polonais Kolakowski à l'occasion de l'apparition d'un certain nombre de ses textes en un volume, curieusement titré « Comment être socialiste, plus conservateur, plus libéral ». Vous le présentiez hier comme un penseur de l'Europe. En quel sens ?
Comme beaucoup d'intellectuels d'Europe centrale, comme l'autre grand philosophe de cette région du monde, le tchèque Jan Patočka, Kolakowski a médité d'autant plus sur l'histoire et la culture de l'Europe qu'il avait le sentiment de lui avoir été arraché en tombant dans l'orbite soviétique, une autre civilisation. Kolakowski pense l'Europe comme un territoire spirituel et non pas comme un simple ensemble historico-géographique. Pour lui, la spécificité de notre culture tient à un certain nombre de fragiles équilibres entre des valeurs contraires, au maintien d'une difficile harmonie entre des principes en tension. C'est d'abord, et dès les Grecs, avec Hérodote, la curiosité envers les autres. L'aspiration à s'enrichir culturellement à leur contact. Pas un hasard, a-t-il écrit plusieurs fois, que l'anthropologie soit née en Europe. Les Européens ont eu très vite conscience de leur propre diversité. Ils éprouvent un sentiment d'inachèvement et d'incomplétude. L'expérience précoce des voyages d'exploration à travers le monde leur a appris à prendre en considération et à décrire les mœurs et les modes de vie de peuples très éloignés des leurs. Du coup, ils ont développé un sens aigu de la critique et le désir de se réformer. Un trait distinctif de la culture européenne parvenue à maturité, c'est sa capacité à se mettre elle-même en question, à sortir de son exclusivisme, à vouloir se regarder elle-même avec les yeux des autres, lit-on dans le petit ouvrage qui nous occupe. Bien sûr, comme tous les conquérants, ils se sont aussi comportés eux-mêmes en barbares, en commençant dès l'Amérique à détruire certaines des civilisations rencontrées. Mais cette capacité autocritique peut aussi déboucher, et Kowakowski estimait que c'était justement le cas à notre époque, sur un relativisme mutilant et stérile. Regarder sa propre civilisation par les yeux des autres pour l'attaquer allait devenir, dès l'époque des Lumières, une façon de chercher à corriger ses propres défauts, voire les lettres persanes. Mais poussée trop loin, cette critique interne peut se révéler autodestructrice. Dans une conférence prononcée en français au Collège de France en 1980 et reprise dans le volume en question, Kowakowski dénonce, je cite, « les illusions de l'universalisme culturel ».
Et comment peut-on faire l'éloge de l'ouverture intellectuelle à l'autre en tant que spécialité européenne d'un côté, tout en refusant l'universalisme culturel? Si on accepte de renoncer à juger l'autre à partir de ses propres valeurs, il faut bien admettre l'égalité des cultures, Brice.
Oui, nous pouvons avoir le sentiment, pas nécessairement justifié d'ailleurs selon Kowakowski, de partager l'expérience esthétique de cultures très différentes de la nôtre. Mais lorsqu'il s'agit des normes morales, des lois, des systèmes de pensée qui sous-tendent les civilisations, nous ne pouvons pas logiquement proclamer que toutes les cultures se valent. On peut faire preuve de curiosité envers des coutumes inhumaines sans les accepter pour autant sur le plan moral. Et là, je vais vous citer un texte issu de cette conférence au Collège de France de Kowakowski. « Quiconque dit en Europe que toutes les cultures sont égales, n'aimerait généralement pas qu'on lui coupe la main s'il triche avec le fisc ou qu'on lui applique la flagellation publique pour adultère. Si l'on dit dans un cas pareil, c'est la loi coranique, il faut respecter les autres traditions, on dit en réalité, ce serait terrible pour nous, mais c'est assez bon pour ces sauvages. Par conséquent, ce qu'on exprime, c'est moins le respect que le mépris des autres traditions. Donc derrière le refus de porter un jugement, on trouve en réalité l'indifférence ou pire, la condescendance, une forme de paternalisme post-colonial. Et plus loin, je cite encore car les mots sont importants, « on ne peut être sceptique au point de ne pas voir la différence entre le scepticisme et le fanatisme. En effet, cela équivaudrait à être sceptique au point de ne pas l'être. » Ou encore, l'universalisme culturel se nie s'il est généreux au point de méconnaître la différence entre l'universalisme et l'exclusivisme, entre la tolérance et l'intolérance, entre soi-même et la barbarie. Il se nie si, pour ne pas tomber dans la tentation de la barbarie, il donne aux autres le droit d'être barbares. Dans d'autres textes, Kowakowski développe l'idée selon laquelle l'humanité a la raison en commun, mais que toutes les cultures humaines n'en ont pas nécessairement conscience. Et pour penser une telle évidence, il faut être capable de distinguer le vrai, qui relève donc de critères objectifs, du valable, qui relève de l'échelle de valeurs propre à une tradition culturelle et qui ne vaut que pour elle. En fait, l'esprit européen navigue entre des polarités complexes, d'où son instabilité. D'un côté, on a de fortes certitudes et elles peuvent mener au fanatisme. De l'autre, une capacité étonnante au doute et elle peut déboucher sur le nihilisme. Les intellectuels en Europe ont éprouvé ces deux tentations contraires. Kowakowski a écrit que les intellectuels en Europe se divisent en deux catégories d'esprits, les prêtres et les bouffons. Les premiers se croient porteurs de vérités absolues qui soutiennent un pouvoir. Les seconds se chargent de mettre en question tout ce qui se prétend absolu ou définitif. Et bien sûr, c'est au bouffon qu'allait la préférence du philosophe polonais.
Merci beaucoup, Brice Couturier. Donc, comment être socialiste, conservateur et libéral, qui vient de paraître aux éditions des Belles Lettres, mais on retrouvera cet auteur demain. Merci beaucoup, Brice. Dans un instant, c'est La Grande Table avec Olivier Gesbert.